Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Qui est-ce qui contrôle tous les royaumes de la Terre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus instructives aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a plein de bonnes questions à poser au livre d'Ézéchiel aujourd'hui. Alors allons-y, sans plus tarder. Qu'est-ce qui a provoqué la ruine de nombreuses nations? Dans le temps du prophète Ézéchiel, y avait-il autant de matérialisme dans les grandes villes qu'on peut en voir aujourd'hui, comme à New York ou à Londres, par exemple? Est-ce que le monde d'aujourd'hui sera jugé comme celui du temps d'Ézéchiel l'a été? Qui est-ce qui contrôle tous les royaumes de la terre? Est-ce que la Bible parle réellement d'un antéchrist? Satan a-t-il toujours existé? Est-ce qu'il a des cornes et une queue fourchue? Qu'est-ce qui l'a fait tomber? Est-ce que Dieu va l'éliminer un jour? Est-ce que Satan peut anéantir les plans de Dieu? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on sait que tu es fidèle et que tu vas de nouveau répondre à nos questions aujourd'hui pour notre instruction, pour qu'on puisse mieux te connaître et mieux te servir, mieux t'aimer. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Jérémie et Ézéchiel étaient deux prophètes qui illustraient une facette différente du caractère de Dieu. Jérémie exprimait l'amour et la miséricorde de Dieu, alors qu'Ézéchiel exprimait sa sainteté et sa justice. Nous avons vu que Ammon a été jugé pour s'être réjoui du malheur d'Israël. Moab, pour avoir méprisé Dieu en méprisant son peuple choisi. Par contre, Édom et les Philistins ont été jugés pour avoir maltraité Israël. Le fait que la ville insulaire de Tyr n'a pas été reconstruite et que la ville n'a jamais retrouvé sa grandeur après sa destruction par Alexandre le Grand montre que la parole de Dieu ne peut pas être annulée. La ville de Tyr était impressionnante au temps d'Ézéchiel. Bien qu'il n'y soit probablement jamais allé, le prophète prononce une lamentation sur la ville dans le chapitre 27 que nous étudions aujourd'hui. Ézéchiel prononce une lamentation parce que la ville était belle, magnifique et puissante. Dans ce chapitre, teinté de tristesse, Ézéchiel compare Tyr, la capitale de l'Empire phénicien, à un grand navire qui a fait naufrage. C'est une image appropriée pour un peuple qui maîtrisait la mer. Qu'est-ce qui a provoqué la chute de Tyr? Chers amis, débutons notre lecture d'Ézéchiel chapitre 27, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer, et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Qu'est-ce qui entraînait la chute de Tyr? La ville de Tyr est tombée à cause de la même raison qui a provoqué la chute de Pétra. La ville édomite taillée dans le roc. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Le prophète Abdias, chapitre 3. L'orgueil suscité par la gloire, le faste et la prospérité a provoqué la chute de nombreuses nations et les a ruinées. Ce chapitre décrit la grandeur du royaume de la Phénicie. Ce royaume comprenait l'île de Chypre, riche en cuivre, qui était une colonie phénicienne. Il s'étendait jusqu'en Espagne, à Tarsis, ville dont le nom signifie « raffinerie ». La Phénicie avait colonisé cette région pour ses richesses naturelles en métal, dont l'argent, le fer, l'étain et le plomb. Jonas, qui ne désirait pas aller à Ninive, comme le lui demandait Dieu, s'était pris un billet pour Tarsis, mais il n'a jamais vu la ville. Il a plutôt navigué vers Ninive dans le ventre d'un gros poisson. Verset 25 d'Ézéchiel chapitre 27. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire, au cœur des mers. À quelle ville correspond la description de Tyr et de Babylone? Tyr était un grand centre commercial. Les marchands venaient de partout pour vendre et acheter à Tyr. Nous pouvions trouver de tout à Tyr. Au verset 17, nous voyons qu'Israël échangeait du froment, de minite, de la pâtisserie, du miel, de l'huile et du baume contre les marchandises de Tyr. Nous pouvions trouver à peu près n'importe quoi dans les marchés de Tyr. Si vous désirez un portrait du grand centre commercial qu'était Tyr, vous en avez une semblable dans la prophétie au sujet de Babylone, lorsque la ville deviendra le centre commercial, religieux et politique du monde. La ville sera la capitale de l'Antéchrist. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Apocalypse, chapitre 18, versets 12 à 14. Ceci décrit aussi Londres, Paris, Rome, New York et Los Angeles. Vous pouvez acheter tout ce que vous désirez dans ces villes. Si vous avez l'argent, vous pouvez l'acquérir. Nous sommes dans une période de matérialisme comme ce l'était à l'époque de la grandeur de Tyr. Le monde sera jugé comme Tyr l'a été. Tyr était un grand navire. Nous pouvions trouver tout ce dont nous avions besoin à bord. Les musiciens divertissaient la foule, les gens riaient et s'amusaient, le vin et le champagne coulaient à flot. Tyr était rempli de richesses et un jour tout cela a disparu. Dieu a jugé la ville. Maintenant, Ézéchiel prononce une lamentation sur la ville grandiose et merveilleuse qu'était Tyr. Ce qui est arrivé à Tyr va se reproduire dans les derniers jours. Le marché boursier va s'écrouler et tout ce que vous aurez dans vos coffrets de sécurité ne vaudra rien. Tout ce que vous aviez qui a de la valeur sera réduit en cendres. Le jour où Tyr a tombé a été tragique, il en sera de même dans les derniers jours. Chers amis, soyez prudents. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Je pense que les gens doivent profiter de notre affluence. Il n'y a rien de mal à cela, en autant que cela ne devienne pas notre idole. Malheureusement, les richesses matérielles sont devenues l'idole d'un grand nombre de personnes. Dans plusieurs de nos bonnes églises, il y a peu d'enseignements de la Bible. Nous organisons des activités sociales. Nous nous félicitons mutuellement et nous avons de la communion fraternelle, entre guillemets. Nous aimons nous vanter de tout cela. De temps à autre, nous citons un verset de la Bible afin de montrer que nous sommes religieux et pieux, et nous observons quelques rituels de l'Église. C'est ce que les gens faisaient à Tyr et à Jérusalem. Dieu a détruit ces deux villes. Il les a détruites car elles ont balayé du revers de la main les privilèges, les occasions et les responsabilités qui leur ont été accordées. Poursuivons notre lecture d'Ézéchiel 27, lisons le verset 32. « Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi. Ils se lamenteront sur toi. Qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer? Tyr ressemblait à un grand navire qui a coulé. » Verset 34. « Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, tes marchandises et toute ta multitude sont tombées avec toi. » La mer a tout avalé. Verset 36. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi. Tu es réduite à rien. Tu ne seras plus à jamais. Aujourd'hui, là où il y avait une ville merveilleuse, nous ne trouvons plus d'or et d'argent. Nous ne voyons que des tessons de poterie et des ruines. Le Dieu qui habite les cieux dit, « Je vous ai jugé. » La ville de Tyr et ses ruines nous parlent. Dans ce chapitre, nous avons le récit du jugement du prince de Tyr et de Sidon. La prophétie nous permet de voir au-delà de l'homme pour découvrir le prince de l'air, celui qui règne sur les royaumes du monde, soit Satan. Lisons Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 et 2. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, « Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. » Qui était le véritable roi de Tyr? De nouveau, Dieu a parlé à Ézéchiel, mais cette fois il a donné deux messages, un pour le prince de Tyr et un pour le roi de Tyr. Derrière le grand royaume, le grand centre commercial, le grand centre politique, la grande forteresse de Tyr, nous découvrons celui qui semble contrôler tous les royaumes de la terre. C'est Satan. Il a offert tous ses royaumes au Seigneur Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Citation de l'Évangile selon Luc, chapitre 4, les versets 5 à 7. Le Seigneur Jésus a rejeté la proposition de Satan, parce qu'il ne le reconnaissait pas comme le propriétaire légitime de tous les royaumes de la terre. Le Seigneur Jésus savait que Satan les possédait. Ultimement, le Seigneur Jésus règnera sur tous les royaumes, mais pas à titre de vice-roi de Satan. Cependant, aujourd'hui, Satan est encore le prince de la puissance de l'air. Dans les coulisses, il gouverne les royaumes terrestres, que nous le croyions ou non. Qui représente le prince de Tyr? Le prince de Tyr est une image de l'Antéchrist. En fait, il faut deux personnes pour accomplir tout ce que l'Écriture annonce au sujet de l'Antéchrist. Et l'apôtre Jean affirme qu'il y en a plusieurs. Un va nier que Jésus est Dieu fait chair. Il sera l'ennemi du Seigneur Jésus. L'autre va l'imiter. Il y aura un chef religieux et un chef politique. Ici, dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons les deux devant nous. Le prince de Tyr et le vice-roi de Satan. Ton cœur s'est élevé et tu as dit « Je suis Dieu ». C'est exactement ce que l'Antéchrist fera. Au sujet de l'Antéchrist, l'apôtre Paul a dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Citation de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Le prince de Tyr affirme, « Je suis assis sur le trône de Dieu au milieu des mers. » Dieu rétorque, « Tu n'es qu'un homme et non Dieu, bien que tu prennes ta volonté pour celle de Dieu. » Poursuivons la lecture d'Ézéchiel chapitre 28, lisons le verset 3. « Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. » Voici une autre référence au prophète Daniel. Ézéchiel et Daniel exerçaient des ministères contemporains. Le jeune Ézéchiel respectait le prophète Daniel, qui était le premier ministre de Babylone, et qui a vraiment demeuré fidèle au Seigneur. Je pense qu'Ézéchiel avait la mission la plus difficile. Il vivait avec les Juifs en captivité, et il devait leur prêcher la parole de Dieu. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, disait qu'il aurait préféré vivre dans le somptueux palais et passer une nuit avec les lions plutôt que de travailler avec les captifs. Cependant, Ézéchiel n'a pas eu le choix. Dieu l'a désigné pour ce ministère. Ézéchiel réfère à la sagesse de Daniel. Ézéchiel dit que le prince de Tyr était très intelligent. Si vous pensez qu'il n'y avait pas d'homme sage à l'époque, vous vous trompez. Comparé au prince de Tyr et à Daniel, nos politiciens contemporains sont des amateurs. Les rois du temps d'Ézéchiel étaient très sages. Le prince de Tyr représente l'antéchrist religieux, et je crois qu'il viendra de la nation d'Israël. L'antéchrist, qui sera un chef politique, viendra des nations du monde. Il sera un non-juif. Son conseiller, Le chef religieux viendra du pays et il jouera le rôle de premier ministre auprès du chef politique, comme Daniel l'a fait à Babylone ou Joseph en Égypte. Je ne devrais peut-être pas faire une telle comparaison, mais elle est utile pour illustrer les deux positions. Lisons maintenant le verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel ne permet pas que le peuple et nous oublions qu'il parle au nom de Dieu. Maintenant, nous nous tournons vers le roi de Tyr, Satan, qui est la puissance qui se cache derrière le prince de Tyr. » Ézéchiel prononce une lamentation sur lui. Ézéchiel, chapitre 28, est un des rares textes de l'Écriture qui nous explique l'origine de Satan. Lisons attentivement le verset suivant, verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » D'où vient le concept populaire que nous avons de Satan? Satan était la créature la plus sage que Dieu n'ait jamais créée. N'oubliez pas que Satan a été créé. Il a été créé parfait en beauté. Si vous pensez que Satan est une créature avec des cornes, une queue fourchue et des sabots, vous vous trompez. Votre concept de Satan provient de la littérature du Moyen Âge, et il tire son origine dans la mythologie grecque. C'est une description du dieu Pan, appelé Bacchus par les Romains. Il était le dieu du plaisir et du vin. La Bible ne donne pas une telle description de Satan. La Bible affirme qu'il est très beau. L'apôtre Paul a dit ceci au sujet des ministres de Satan. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Ézéchiel décrit Satan ainsi. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Citation de la Bible du Semeur. Revenons à Ézéchiel chapitre 28, lisons cette fois le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ces mots indiquent qu'Ézéchiel ne parle pas d'un roi humain qui règne sur Tyr. Satan était d'une beauté extraordinaire. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Satan protégeait le trône de Dieu. Ceci n'était pas l'Éden terrestre, mais une image du ciel lui-même. Satan avait accès au lieu céleste. Verset 15. Tu as été intégré dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Chers amis, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui a fait tomber Satan? Satan avait la position la plus élevée qu'une créature pouvait avoir dans le ciel. Ézéchiel ne nous dit pas ce qui a provoqué sa chute, mais Ésaïe nous en a parlé. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Citation du prophète Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15. Satan est tombé à cause de son orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Permettez que je vous dise ceci. Si vous êtes un croyant qui pense avoir atteint un degré élevé de sainteté, que vous êtes parfait et que vous vous présentez comme le modèle à imiter, rappelez-vous que Satan était un ange de lumière. Il était parfait, mais il est tombé. Puisqu'il a tombé, qu'en est-il de nous? Nous sommes des êtres humains fragiles. Dieu n'accepte jamais la rébellion. Il ne peut pas la tolérer. Que va-t-il donc faire? Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Satan sera condamné pour ses péchés. Il est seulement une créature. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais cette vérité me réconforte. Je ne pourrai pas vaincre Satan. Je ne suis pas de taille. Je loue Dieu de ce qu'il va s'occuper de lui. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Salomon était un homme sage, mais il a été insensé en ce qui concerne les femmes. Ici, nous avons la créature la plus perfectionnée de Dieu, parfaite et sage, mais elle a été insensée en voulant détrôner Dieu. Mes amis, aujourd'hui encore, un enfant de Dieu peut aussi agir en insensé. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Dieu va exposer Satan pour ce qu'il est aujourd'hui. Verset 19. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Un jour, dans l'avenir, Dieu va éliminer Satan de son univers. Nous prions pour que ce jour vienne. Les versets 20 à 24 sont un jugement prononcé sur Sidon. Dieu annonce un châtiment pour la ville, mais elle ne sera pas détruite. Tyr a été détruite, et la ville insulaire n'a jamais été reconstruite. Par contre, Sidon, maintenant appelée Séda, qui se trouve à 25 kilomètres au nord de Tyr, est aujourd'hui une ville d'environ 100 000 habitants. Elle est 7 fois plus grande que Tyr. Dieu a dit que la puissante ville de Tyr ne serait pas reconstruite, et elle ne l'a pas été. Lisons les versets 25 et 26 d'Ézéchiel chapitre 28. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations, et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité, et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité, quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Oui, chers amis, Dieu dit qu'il rassemblera de nouveau son peuple. Satan ne peut pas anéantir les plans de Dieu. Satan ne déjouera pas la moindre partie du plan de Dieu pour la nation d'Israël. Chers amis, vous pouvez avoir confiance en Dieu, en son plan merveilleux pour votre vie, car c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va se réaliser. Allez vers lui. Demandez-lui son plan merveilleux pour votre vie. Faites-lui confiance en la personne de Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Ézéchiel, en lisant les chapitres 29 et 30. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Tu nous as vraiment bien dépeint l'adversaire aujourd'hui. Celui qui nous était décrit comme étant si laid quand j'étais toute petite et que j'allais à l'école. Avant de connaître la parole de Dieu, je pensais réellement que Satan avait des cornes et une queue fourchue. Et j'imagine qu'il y a encore des gens qui croient ça. Mais aujourd'hui, on a réellement vu que c'est tout à fait le contraire. Que Satan a été créé parfait en beauté. C'est pourquoi il réussit à en séduire plusieurs. Mes amis, Régent nous a enseigné aujourd'hui que Satan avait la position la plus élevée qu'une créature pouvait avoir dans le ciel et qu'il était la créature la plus sage que Dieu n'ait jamais créée. Et pourtant, il est tombé. Pourquoi? À cause de son orgueil. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'est rebellé contre lui et on a vu qu'un jour, Dieu va l'éliminer de son univers. Et j'ai bien hâte à ce jour. Mais quand je pense que cette belle et sage créature est tombée à cause de son orgueil, ça sonne une grosse cloche dans mon cœur. Et j'en suis bien heureuse, parce que si l'orgueil a fait tomber un ange, je ne vois pas comment ça ne pourrait pas faire tomber des êtres humains comme nous. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16, verset 18, il est écrit que l'orgueil précède la chute. Et là, on ne parle pas de Satan, mais de l'être humain. Mes amis, dans ma famille, je dois vous avouer, à ma grande honte, qu'on était des gens orgueilleux. On était même fiers d'être orgueilleux, imaginez. Mais depuis ma conversion, quand je pense à ça, j'en rougis. Heureusement, Dieu m'a pardonné le jour où j'ai reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Le jour où je me suis repenti, où j'ai changé de direction à la gare du péché. Mais je peux même vous dire que c'est l'orgueil qui m'a empêché d'écouter la première fois où quelqu'un a voulu me parler de l'amour de Dieu pour moi. Mon ami, l'orgueil nous éloigne de Dieu. Il nous empêche de venir à Dieu quand il nous appelle à lui. Mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Je t'invite donc à écouter humblement l'appel que Dieu te fait en ce moment. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20, Jésus te parle. Il te dit ceci, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, reconnais-tu que tu as besoin de Dieu? Bien, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Mets de côté ton orgueil. Le Seigneur t'offre un beau cadeau en ce moment. Il frappe à la porte de ton cœur. Et la poignée de cette porte est juste à l'intérieur. Tu es le seul ou la seule à pouvoir l'ouvrir. Jésus ne te forcera pas. Il ne forcera pas son entrée chez toi. Ouvre la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Jésus veut souper avec toi. C'est-à-dire qu'il veut rétablir l'intimité avec toi. Et pour l'éternité. Et ce, pour toujours, pour toujours, pour toujours être intime avec lui. Être dans la joie, dans sa présence. Place ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés. Il veut te donner la vie éternelle en ce moment. Attends pas à demain. Tu n'as rien à payer. Il a tout payé en mourant sur la croix pour toi. Reçois Jésus comme ton sauveur. Reçois-le comme ton Seigneur, comme ton maître. Il va diriger ta vie et il va t'amener jusque dans l'éternité.
Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens. Combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.